RMC, After Espagne,
Nicolas Jamain.
Salut à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne, le podcast 100% Liga de l'After Foot et d'RMC que vous retrouvez aussi en vidéo bien sûr sur After Foot TV, sur la chaîne YouTube de l'After et sur vos box SFR Free Orange et vos télé connectés. Comme chaque semaine, il est là à Madrid dans son penthouse en plein cœur de la ville, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Au moins. Salut messieurs, comment ça va?
Bah bien, un jour il faudra qu'on ait droit à une petite visite hein, de ton château espagnol. On fera un podcast spécial.
On fera un home tour.
Rémi Dumont est là aussi. Salut Rémi.
Salut Nico. Salut le Ed. Salut tout le monde.
Cette semaine, on va parler du Real Madrid. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas consacré un épisode entier à la Maison Blanche. Le Real proche d'une nouvelle crise, peut-être distancé en Liga par le Barça, éliminé en Coupe de Roi, en danger en Ligue des Champions, huitième de finale aller-retour contre Manchester City. Liste de blessés interminable et pas des moindres. Qui s'allonge avec Rodrigo, notamment en saison terminée. Bellingham, toujours pas de retour. Mbappé, le flou le plus total. On va en parler, bien sûr. Cette question, cette semaine, le Real est-il parti pour une nouvelle saison blanche, ce qui serait quasiment historique. On vous dira depuis quand ce n'est pas arrivé. On a fouillé, on a trouvé la stat. Vous écoutez l'After Espagne, c'est parti. Alors, un petit point classement, hein, même si vous qui nous regardez peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine, le nombre de points, le classement aura peut-être un peu évolué, pas pour le Real, mais en tout cas l'écart avec le Barça. Où on est le Real avant Celta Vigo?
Eh bien, ce vendredi 6 mars, c'est le jour à laquelle on enregistre ce podcast. Le Real Madrid est actuellement deuxième de Liga avec 60 points. C'est 4 de moins que le FC Barcelone. C'est la deuxième attaque de Liga derrière Barcelone. C'est par contre la meilleure défense avec seulement 22 buts encaissés. C'est toujours une moyenne de 2,31 points par match. Donc il y a quand même un rythme assez soutenu de la part du Real Madrid, même si au classement, ça ne se traduit pas en tant que leader.
Je regardais sur le plan comptable, le Real fait même mieux que la saison dernière, 6 points de plus hein, par rapport à la saison dernière après 26 journées. Mais le Barça, on a 7 de plus. C'est ça le problème du Real Madrid. Le Barça va plus vite que la saison dernière, hein, qui avait déjà sacré les Catalans. Pas de Coupe du Roi, terminé. Ça a été un fiasco cette saison, une humiliation. Ligue des Champions, on va voir, c'était chaotique, il a fallu passer par les barrages. Tu l'as dit, l'écart avec le Barça, alors que le Real, il y a encore deux semaines, avait réussi à repasser devant le Barça. Deux défaites consécutives en Liga. Edgar, question simple, quelle est l'ambiance autour du Real? Les socios, les supporters, les sympathisants madrilènes, ils en sont où en ce 6 mars déjà?
Honnêtement, je pense que la grande majorité des supporters ont très peu d'espoir sur la fin de saison, même si le Real est deuxième et en soi est toujours à une distance atteignable du Barça, même si le Real est toujours qualifié en Ligue des Champions, personne ne voit comment cette équipe-là, en jouant comme ça, et en plus de ça, avec les blessures et tous les éléments qu'on va évoquer, peut faire quelque chose. Il y a la sensation aussi que globalement, il n'y a pas grand-chose qui va et qui tourneront au club. On a l'impression qu'à tous les niveaux, il y a des personnes qui sont critiquées. À tous les niveaux, il y a des soucis, que ce soit au niveau des performances des joueurs, des attitudes des joueurs, des blessures, ce qui donc inclut le corps médical, du recrutement, ce qui inclut la direction, de la tactique donc d'Arbeloa, même de la communication d'Arbeloa. On a l'impression qu'il y a énormément de soucis à tous les niveaux et je pense que chez les supporters, il y a un petit ras-le-bol et il y a quand même l'envie de vite passer à autre chose et l'envie d'arriver déjà à cet été, de voir des changements au club à différents niveaux et de pouvoir repartir sur des meilleures bases parce que là, la saison est quand même très compliquée malgré ce bilan comptable en championnat qui finalement n'est pas si mauvais.
Elle est pire que la dernière saison ou pas celle-ci pour l'instant, tu penses toi?
Je pense que la dernière saison, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle d'une saison blanche, mais bon, on se souvient tous de la réponse de Kylian Mbappé sur les titres majeurs.
Oui, mais
effectivement,
non, mais ça, oui.
Il y avait eu la Super Coupe d'Europe qui avait donné du coup l'impression que ce Real-là gagnait toujours, etc. Il y avait eu ensuite la Coupe Intercontinentale. Alors, c'est une coupe, on va dire bidon, hein, mais qui avait quand même donné ce sentiment de gagne. Et il y avait l'arrivée de Kylian Mbappé, donc il y avait beaucoup d'attentes autour de ça. Et donc là, je pense que il y a le contre-coup de cette première saison qui fait que le Real Madrid, cette saison, n'a pas participé à la Super Coupe d'Europe, à cette Coupe Intercontinentale, à ces trophées mineurs qu'ils ont l'habitude de gagner régulièrement et qui leur permettent de rajouter tout le temps des petites lignes à leur palmarès. Il y a ce contre-coup-là, et en plus de ça, le fait de se dire ok, on est un an plus tard, on n'a pas progressé, sauf qu'en plus de ça, c'est plus Ancelotti le prestigieux sur le banc, c'est Arbeloa qui avait jamais coaché un match en pro. Donc tu te dis ok, le Real Madrid par le passé a gagné des grands matchs sans bien jouer, sauf que encore une fois, il y avait Ancelotti sur le banc, donc la confiance et l'expérience qu'il amène là, il joue pas mieux, et en plus de ça, ils ont pas l'expérience sur le banc pour espérer des miracles. Et surtout, tu as l'impression en fait que tous les problèmes de la saison passée, ils sont tous là, et certains, voire beaucoup d'entre eux, sont aggravés par rapport à
exactement. Je suis d'accord avec ça. Saison blanche, c'est un peu le thème de notre podcast cette semaine. Est-ce que c'est possible une deuxième saison blanche consécutive? On a regardé, c'est déjà arrivé dans l'histoire entre guillemets récente, contemporaine du Real Madrid. Il faut remonter à la fin de l'ère des Galactiques. C'était saison 2004-2005 et 2005-2006. Aucun titre, pas de Coupe du Roi, pas de Liga, pas de Ligue des Champions, bien sûr. Florentino Pérez n'avait pas encore de cheveux blancs à l'époque. Il avait dû démissionner en pleine saison, en février 2006.
C'est ça qui est important.
Là, il a été réélu en janvier 2025 pour un nouveau mandat de 4 ans, ouais, c'est ça, Edgar. Sincèrement, je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi. Vas-y.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'était il y a 20 ans, quasiment saison pour saison, hein, puisqu'on est en 2024, enfin à partir de 2024 et donc maintenant en 2026. C'était aussi, bizarrement, les deux dernières saisons de Zizou en tant que joueur au Real Madrid. Ce qui est assez étonnant, parce qu'il y a peut-être un comparatif à faire avec, évidemment, Kylian Mbappé, qui est le joueur du Real Madrid cette saison. On va en parler avec ses stats. Mais moi, je trouve que ce qui est étonnant, en fait, c'est quand tu prends le début de saison, là, tu te dis, tu as Xabi Alonso, tu as Mbappé pour sa deuxième année, il aura plus de repères, il va être performant, et finalement tout s'effondre, et c'est là où tu te dis que c'est compliqué, parce qu'encore une fois il y a le contexte de la Coupe du Monde à venir où tu dis que les joueurs vont vouloir se montrer. On va en parler avec les blessures, mais voilà, c'est
ou se préserver, on va parler avec Mbappé,
se préserver, en tout cas pas prendre de risques pour être là à la Coupe du Monde. Et tu vois qu'en fait ça part dans tous les sens, et c'est là où c'est compliqué, parce que quand on en vient à pointer du doigt Florentino Pérez, c'est qu'il y a un vrai problème au Real Madrid.
Bon, Florentino Pérez, il est a priori tranquille, je l'ai dit, il a été réélu. Est-ce que tout peut arriver? Est-ce que lui aussi est pointé du doigt par les socios, Edgar?
Il est pointé du doigt, il y a des chants, ou en tout cas, c'est pas des chants généralisés dans tout le stade, mais on entend des cris Florentino démission depuis quelques semaines au Bernabéu, ce qui est quand même une rareté, et c'était pas arrivé depuis quelques années quand même. Je pense que Florentino Pérez, il est pointé du doigt surtout sur le sportif, et certains sociaux, certains supporters ont la sensation qu'il a priorisé en fait la gestion du club, économique, financière du club, et qu'il a peut-être délaissé le sportif. En tout cas, ils ne sont pas satisfaits de l'effectif qui est en place au Real Madrid, des choix sportifs par rapport au coach aussi. On a la sensation, et ça c'est le couteau à double tranchant, c'est-à-dire qu'au Real Madrid, Florentino prend toute la place médiatiquement dans les décisions qui sont prises. Et donc, quand tout va bien, c'est Florentino Pérez est un génie. Et quand tout va mal, forcément, tous les regards se tournent aussi vers Florentino Pérez. Mais ce qui est intéressant, et vous avez eu raison de faire le parallèle avec 2005-2006, c'est que quand Florentino Pérez avait démissionné, il avait dit, il avait expliqué, j'ai peut-être mal éduqué, c'est-à-dire mal habitué les joueurs, c'est-à-dire donner trop de pouvoir aux joueurs. Et c'est vrai que cette saison, et surtout avec le départ de Xabi Alonso, on a eu la crainte chez beaucoup de suiveurs du Real Madrid et chez beaucoup de supporters de se dire, mais est-ce que Florentino Pérez n'est pas en train de refaire la même erreur, c'est-à-dire d'avoir peut-être donné un moment de la saison trop de pouvoir aux joueurs, ou en tout cas d'avoir pas assez soutenu l'entraîneur par rapport aux joueurs. C'est peut-être la même erreur qu'il y a 20 ans pour lui.
Bon, et puis il a aussi dû encaisser aussi la rénovation du stade, qui a coûté quasiment 2 milliards d'euros, tout simplement, 1,750 milliards d'euros environ. Là aussi, c'est une logique économique qui peut plomber aussi l'ambition sur le mercato du Real Madrid. Et puis il y a autre chose, il y a un sujet central où tout le monde s'arrache la tête, qu'on soit sympathisant, socios du Real, joueur du Real également.
Et surtout même.
C'est la litanie de blessures, Rémi. C'est complètement fou ce que vit le Real.
Oui, parce que alors les infos de Ed à retrouver sur le site de rmcsport.fr avec 11 absents pour le match face au Celta Vigo ce vendredi 6 mars. En tout cas, nous, on vous a montré les absents et leurs blessures avec Eder Militao qui est blessé musculairement. Raúl Asensio qui, lui, devrait revenir, qui a été touché à la tête. Eduardo Camavinga aux dents. Ceballos au mollet. Bellingham aux ischios. Rodrigo, les ligaments croisés, on va en reparler. Kylian Mbappé au genou. C'est quasiment une équipe de titulaires qui est à l'infirmerie. Donc, ce qui montre bien aussi que voilà, on a beau mettre des joueurs sur le terrain avec tout le talent qu'ils ont, s'il n'y a pas les meilleurs, ça devient de plus en plus compliqué pour le Real de réagir.
Bon, il faut qu'on parle de ça maintenant, avant de parler du cas Kylian Mbappé. Est-ce que c'est un sujet polémique à Madrid en ce moment, cette avalanche de blessures? On est à 37 blessures déjà cumulées cette saison, on était à 51, c'est pas un problème nouveau. Hein. La saison dernière, Edgar, qu'est-ce qu'on en dit? Et est-ce que des changements ont été faits?
Oui, complètement. C'est une priorité absolue au club et c'est une inquiétude au club. C'est pour ça qu'ils ont rappelé le docteur Mitch qui avait quitté le Real Madrid quelques années auparavant et qu'il a repris la tête de l'équipe médicale. Ce changement-là, il avait été fait peu de temps avant le départ de Xabi Alonso. C'était vraiment un choix de la direction. Le choix de replacer Antonio Pintus, qui avait été relégué à un poste de directeur de la performance, qui était un petit peu au second plan, qui était moins sur le terrain, notamment lors des entraînements. Antonio Pintus, il a été replacé préparateur physique, en tout cas chef de la préparation physique, et donc il a un rôle beaucoup plus direct, c'est-à-dire que c'est lui que tu vois aux entraînements en train d'échauffer les joueurs, c'est lui que tu vois directement au contact d'Arbeloa, ce qui n'était plus le cas sous Xabi Alonso. Et ça aussi, c'est pas un choix d'Arbeloa, c'est un choix qui a été fait par la direction et imposé à Arbeloa, même si il l'a pas contesté. Donc ce sont des choix qui ont pour objectif de diminuer ce problème des blessures, parce que effectivement on peut expliquer beaucoup des blessures, comme dans beaucoup de clubs, par les calendriers, le manque de repos, le manque de pause entre les saisons, mais quand c'est à ce point-là, il y a forcément quelque chose qui cloche, et ça, la direction l'a compris, c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces changements. On va voir maintenant, ça va faire depuis le début de l'année maintenant que le docteur Mihic est de retour au club, on va voir si ça peut avoir un impact, mais en tout cas, c'est un problème dont le club a complètement conscience, et c'est vrai que même les joueurs, quand ils voient toutes ces blessures, quand ils voient tous ces problèmes récurrents, bah, eux aussi, forcément, au bout d'un moment, ils peuvent se poser des questions.
C'est sûr qu'il y a une défiance vis-à-vis du staff médical. Bellingham, lui, était allé consulter à Londres, hors club. Mbappé, on en a parlé suffisamment sur RMC, est venu à Paris consulter le chirurgien spécialiste du genou, Bertrand Sonnery Côté. Exactement. Là, il y a un vrai sujet de tension entre le staff médical. J'en ai pas être à l'intérieur du staff médical. Hein. C'est compliqué avec la pression que tu dois avoir. C'est dur. Et puis aussi, une blessure récurrente. Hein. Alors, je sais pas si c'est lié aussi à mauvaise gestion sur le plan physique des joueurs, mais les ligaments croisés. Quoi.
Les ligaments croisés, alors après, c'est pas une blessure musculaire quelque part, donc c'est là où, entre guillemets, dans le malheur, on peut avoir du côté positif, hein, parce que là, les préparateurs physiques n'y peuvent rien. En revanche, il y en a eu 6 depuis 2023 au Real Madrid, 2 fois pour Eder Militao, le défenseur, 1 fois pour Thibaut Courtois, Alaba, Carvajal, qui sont tous des joueurs à vocation défensive, et donc le dernier en date, c'est Rodrigo qui s'est fait ça contre Retafe, ce qui montre bien que, voilà, c'est, on va dire, l'une des pire blessure pour un footballeur, surtout en plus, encore une fois, en année de Coupe du Monde, donc c'est compliqué à gérer, puis c'est surtout que voilà, ça ne dure pas 2 semaines, quoi. C'est au moins 6 mois, voire 9 mois.
Rodrigo, on va en parler dans un instant, on va parler de Kylian Mbappé aussi, lui aussi, va-t-il vivre une deuxième saison blanche, quoi qu'il en dise, au Real Madrid? Vous restez avec nous, on fait une courte pause, on vient dans un instant pour la suite du podcast After Espagne. L'After Espagne, toujours avec Rémi Dumont et Edgar Grollo, consacré au Real Madrid. Le Real va-t-il vivre une deuxième saison blanche consécutive 20 ans après cette terrible séquence, toujours sous Florentino Pérez. Parlons de Kylian Mbappé, parce que tous les rageux, ils vont dire « Ah, ça me ferait plaisir de voir Mbappé, qui a fait des pieds et des mains pour aller
il
au Real. »
Il est parti de Paris pour gagner la Ligue des Champions, c'est Paris qui l'a gagné.
C'est là, ça, pour Florentino Pérez, qui depuis 5 ans le veut absolument, a fait all-in sur lui. Eh bien, on en est là aujourd'hui, pour l'instant, il n'a rien gagné.
Non. Ah, super, c'est factuel. Coupe d'Europe, même s'il y a une super coupe
continentale, mais ça, c'est pour moi, ça compte pas, évidemment. Mbappé, déjà un point factuel, parce qu'on lit tout et un peu n'importe quoi sur les sites, les réseaux. Mbappé, qui va manquer un mois, 2 mois, qui va revenir pour City, le retour en Ligue des Champions. Où est-ce qu'on en est à date, au vendredi 6 mars, Edgar?
Alors, Kylian Mbappé, il était à Paris donc la semaine pour travailler. Il a travaillé de son côté. Il y avait 2 membres du staff madrilène qui étaient avec lui, qui l'ont aidé. Et il était attendu aujourd'hui, ce vendredi, alors on enregistre ce podcast, de retour à Madrid. Et donc, à partir de maintenant, il va travailler à Madrid. Il a bien une entorse du genou. En termes de retour, l'idée, ce serait de viser un retour au match retour face à Manchester City. Mais Évidemment, c'est là que la Coupe du Monde rentre en jeu. Pour le joueur, l'idée, c'est quand même de ne pas prendre de risques parce qu'il a conscience de l'enjeu aussi. Après, est-ce qu'il a besoin d'être opéré maintenant ? Non. À ce stade, aucune opération n'a été envisagée. Il faut du repos, il faut travailler aussi les muscles qui sont autour de cette zone-là pour renforcer et pour justement éviter de se blesser et d'avoir d'autres problèmes. Donc, c'est maintenant un mélange de repos et de travail musculaire qui va falloir pour Kylian Mbappé. Évidemment, depuis le départ, parfois le calendrier du Real Madrid a été, on va dire, priorisé au-dessus, on va dire, de la santé du joueur. Au bout d'un moment, il va falloir aussi réussir à s'arrêter le nombre de jours, de semaines nécessaires. Et je pense que les risques ne seront pas pris au niveau de son retour maintenant.
Parce qu'ils ont pris des risques avec lui dans ce début de saison, sous Xabi Alonso, sous Arbeloa, ils ont tiré sur la machine.
C'est sa responsabilité aussi.
Bien sûr, lui veut jouer absolument tous les matchs, sauf qu'il veut aussi jouer à la Coupe du Monde. Et attention à ne pas se rompre ou se froisser un ligament au niveau du genou, ce qui pourrait hypothéquer toutes ses chances de jouer un mondial avec les Bleus.
Ah voilà, ce serait catastrophique, et aussi bien pour le Real Madrid que pour l'équipe de France, parce que quand on voit les stats de Mbappé, par exemple, avec le Real cette saison, on s'aperçoit qu'il a déjà joué 33 matchs, ça c'est une chose, mais qu'il a marqué 38 buts. Vous voyez, c'est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, il en est à 6 passes décisives, mais c'est le meilleur buteur de Liga avec 23 buts, et c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions avec 13 buts. Autant dire que quand il n'est pas là, forcément le Real a plus de mal, et ça c'est qu'avec évidemment le Real Madrid. On pense aussi à l'équipe de France, mais quand on compare aussi les saisons et notamment le Real Madrid, ce que ça donne avec et sans Mbappé, et ben avec Mbappé c'est quand même beaucoup plus de victoires, hein, 24 contre 4 quand Mbappé n'est pas là. 7 matchs disputés sans Mbappé au Real Madrid cette saison pour 3 nuls et donc 3 défaites. Évidemment là on voit la différence, 16 buts marqués pour le Real et 10 encaissés quand Mbappé n'est pas là. En revanche, c'est 72 buts marqués avec Kylian Mbappé. C'est pas Kylian Mbappé qui marque 72 buts, hein. C'est juste que voilà, quand il a le Real marque beaucoup plus et encaisse deux fois plus de buts certes, mais en marque 3-4 fois plus. C'est là où on voit l'importance de Kylian Mbappé cette saison.
Voilà pour Mbappé. Bellingham en est où? Là aussi c'est un peu le flou. On pensait qu'il reviendrait bientôt, maintenant on lit que c'est pas avant le mois d'avril. Edgar, il y a un problème de communication au Real, hein. On sait pas vraiment ce qu'il en est pour Mbappé comme pour Bellingham.
Mbappé, Bellingham aussi est allé, lui à Londres, hein. Mbappé était à Paris, lui à Londres, le docteur Mihic est aussi allé le voir à Londres, les membres du staff madridaine. A priori, il faudra attendre le mois d'avril pour Jude Bellingham, il a été touché aux ischios, mais comme tu dis, et je pense que c'est en fait une partie très importante de toutes ces histoires, il y a eu un problème de communication. Et je pense que dans le cas de Kylian Mbappé, il y a eu un problème de communication dès le mois de décembre de la part du club, parce que c'est pas normal aujourd'hui que les gens se posent des questions, ne comprennent pas. Alors oui, évidemment, il y a du secret médical et tu peux pas tout dire et tu dois pas toujours tout dire. Et c'est aussi le rôle du club de ne pas tout dévoiler tout le temps. Mais je pense qu'il y a un moment, et avec les blessures récentes et particulièrement quand ça touche des stars, il y a un moment où il faut être un peu plus clair et il faut faire en sorte que les supporters se posent pas des questions, se demandent pas si un tel priorise plus sa sélection que le club et vice versa, hein. Pour l'équipe de France, faut rassurer aussi les gens que par exemple Kylian Mbappé ne priorise pas le Real Madrid au-dessus de l'équipe de France. Et je pense que en fait il y a eu une certaine opacité pendant un petit moment qui s'est un petit peu éclaircie ces derniers jours avec les différents communiqués, et cette opacité ou ce manque de communication, je pense que elle a été négative pour l'image de tout le monde, que ce soit les joueurs, les clubs, les sélections, et je pense que, et j'espère en tout cas qu'il y aura une communication un petit peu plus claire à l'avenir pour pas que tout le monde se pose des questions, parce que certains à certains moments se demandaient ah mais non, un tel choisit ses matchs, un tel est blessé que quand il arrange, etc. C'est pas possible de laisser les supporters penser ça, et je pense qu'il faut une communication un petit peu plus claire.
Bon, et puis Rodrigo, dernière tweet, on en a parlé, rupture ligament croisé, saison terminée, pas de Coupe du Monde pour lui, la chance d'Hendrick, s'il se remet à marquer des buts, hein, le Lyonnais, hein, parce qu'il n'a plus marqué depuis un mois, à part sur penalty. Alors, Arbeloa, c'est l'autre gros sujet cette semaine, parce que Arbeloa, on a le sentiment, Edgar, que personne n'y a cru dès le début, que personne n'y croit encore aujourd'hui.
Et personne ne va vraiment y croire.
Il y a 99,8% de chance, précisément 8% de chance, qu'il soit encore l'entraîneur du Real la saison prochaine. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il sera encore jusqu'à la fin de saison Arbeloa ? Ça peut aller extrêmement vite. Qu'est-ce qu'il peut faire déjà comme compo contre City ? Parce qu'il peut jouer aussi sa fin de saison, sa double confrontation contre Manchester City de Pep Guardiola. Tu as dessiné une compo probable avec tous les absents. Voici à quoi pourrait ressembler le Real, Edgar.
Oui, avec Courtois dans les cages, la défense, Carreras, Rudiger, Asensio, Trent. Alors là, éventuellement, on pourrait voir un Hussein entrer dans ce 11-là, peut-être à la place d'Asensio. Mais Hussein, vu son niveau de forme en ce moment, quand Asensio est en forme, il est devant dans la hiérarchie aujourd'hui à l'instant T. Au milieu de terrain, alors on les met en 4-4 de losange avec Tchouaméni en pointe basse et Güler en pointe haute. Mais pour voir le losange sur le terrain, je pense qu'il faut trois paires de lunettes parce que c'est vraiment pas clair ce qu'ils essayent de mettre en place. Camavinga, Valverde aussi au milieu de terrain et Vinicius. Et Gonzalo devant, quand Kylian Mbappé n'est pas là, pour l'instant, c'est ce qu'Arbeloa a essayé de mettre en place.
Franchement, ça ne fait pas rêver. Hein. Quand tu vois ce 11-là du Real, il y a beaucoup d'absents, certes, mais tout de même, quoi, on dirait une équipe correcte de Liga. Quoi.
Bah, j'ai envie de te dire, ça pourrait être pire encore, mais c'est sûr que quand tu vois les absents, c'est là où ça fait le plus défaut, parce que voilà, c'est quand tu t'aperçois que les gens ne sont pas là qui sont le plus important aussi. Mais après, mine de rien, tu as quand même Vinicius, tu as quand même Tchouaméni, Valverde, tu as quand même Rudiger, tu vois, tu as Trent aussi. Donc ce sont des joueurs qui ont de l'expérience. Qui
sur
peuvent,
papier, mais tu sur parles papier, de Trent. Trent, pour l'instant, il n'a pas lancé son histoire à Real Madrid.
C'est le cousin de Trent qui a signé au Real, ça c'est sûr pour l'instant. Après, on connaît les premières saisons des joueurs au Real, c'est toujours très compliqué. Mais. Elle tient quand même la route. Alors après, face à City, ça sera encore autre chose, ça c'est sûr.
Ce sera autre chose. Arbeloa, ouais. Donc, mon cher Edgar, je le disais, hein, personne n'y croyait au début quand il était nommé. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut vite terminer l'histoire avec lui, jusqu'à la fin de la saison peut-être, et passer à autre chose très vite ?
Ouais, en tout cas, toutes les semaines, il y a des nouveaux noms pour qui va prendre sa place cet été. Évidemment, si la situation s'aggrave trop, on connaît le Real Madrid, je pense que ce sera compliqué même pour lui de terminer la saison, mais il faudra vraiment que la situation s'aggrave pour qu'il soit viré, parce que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'option pour prendre quelqu'un tout de suite. Donc c'est ça la difficulté. Si tu vires Arbeloa, c'est pour prendre qui ? Mais ce qui est clair, c'est qu'Arbeloa... Il n'y a pas beaucoup de moments en fait où il a marqué des points depuis qu'il est arrivé. Sa communication ne convainc presque personne.
Comment tu la qualifies, la communication, quoi ? C'est assez neutre après, le pauvre. C'est hyper dur d'arriver là, dans une telle situation.
Alors, sa communication, moi j'ai l'impression, très honnêtement, hein, et surtout au départ, j'avais l'impression de voir un entraîneur qui n'avait pas compris qu'il était passé de la réserve, dans la communication, hein, de la réserve à l'équipe première. Parce que tu avais un entraîneur qui, comme si tu étais en train de coacher des U18, des U17, et ben quand tu arrives et que tu dois parler d'eux, mais tu les défends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu dis que c'est de ta faute, parce qu'effectivement, tu es le coach de jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience, donc tout est ta faute. Mais j'ai l'impression qu'il a défendu les joueurs d'une façon irréaliste parfois. Je ne dis pas qu'il ne doit pas défendre ses joueurs, mais il y a des façons de faire. Et de toujours dire que c'est de sa faute, même quand tu vois que les joueurs ont une grande responsabilité, de toujours défendre des joueurs, même quand ils sont en méforme, de dire que des joueurs ont fait des performances exceptionnelles quand ils ont fait des matchs pourris, ça, en fait, tu te décrédibilises. Et nous, après, on ne peut pas prendre au sérieux les autres choses qu'il dit, parce qu'on se dit « Ouais, mais ok, il dit ça, mais il y a deux réponses. Il a dit qu'un tel avait fait un match de dingue alors qu'il avait été nul. » Donc, en fait, il a perdu de la crédibilité par rapport à ça. Il a perdu de la crédibilité aussi quand il dit « Moi, on lui pose la question « Qu'est-ce que tu penses des sifflets du Bernabéu par rapport aux joueurs ?» Il dit « Oui, bah, je pense que l'exigence du Bernabéu, c'est important et ça fait aussi la grandeur du club. » Ça, il a complètement raison. Mais par contre, quand les sifflets du Bernabéu ou quand les critiques du Bernabéu sont contre Florentino Pérez, là, d'un coup, c'est un mouvement qui est manipulé, ce ne sont pas des vrais supporters, les gens qui critiquent Florentino Pérez ne sont pas des vrais supporters. C'est pas sérieux comme façon de répondre, et ça, je pense que personne n'a été dupe des réponses d'Arbeloa, et personne vraiment n'a apprécié ses conférences de presse. Et très très rapidement d'ailleurs, il est rentré beaucoup plus rapidement que Xabi Alonso, il est rentré dans un tunnel de « je viens, je donne des réponses de 2-3 mots et je passe à autre chose ». Et finalement, je pense que la communication, ça a été la première chose qui n'a pas convaincu. Et après, évidemment, tactiquement, dans le jeu, ça n'a pas été convaincant. Je pense que sa seule réussite, honnêtement, ça a été, par contre, de redonner une bonne place à Vinicius Junior et de faire en sorte qu'on puisse retrouver un Vinicius un petit peu plus conquérant.
Bon, puis aussi un délit de charisme aussi. Hein.
C'est vrai que c'est pas Ancelotti, c'est pas Zizou, c'est sûr. Hein,
c'est ça, et c'est même pas Xabi Alonso, même s'il est parti depuis. Quoi. C'est-à-dire quand il vient cet homme-là, on dirait presque une victime en conférence de presse ou en bord-terrain, ce qui veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur et qu'il sera jamais un bon entraîneur.
Non, mais quand mais tu débarques au Real, forcément...
Le monument est trop grand pour lui.
Voilà, ouais, t'attends à ce que justement l'entraîneur remplisse bien son costume. C'est peut-être un peu moins le cas, évidemment, pour Arbeloa. Après, je regardais, il a quand même été champion d'Europe, champion du monde lorsqu'il était joueur. Donc il a quand même de la crédibilité. Après, c'est sûr que quand t'entraînes la Castilla, c'est pas la même chose qu'entraîner les Vinicius, les Mbappé. Après, je me demande, pour être, on va dire, méchant avec Arbeloa, si le retour en forme de Vinicius coïncide pas aussi avec les autres blessures, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as des joueurs qui ne sont plus là, ça laisse la place à d'autres, et donc du coup, Vinicius en profite.
Bon, alors évidemment, ne croyez pas tous les noms qui fleurissent hein, pour lui succéder sur Internet. Pour l'instant, il y a rien à Edgar de concret. En tout cas, pour la fin de saison, ça paraît impossible. Tout le monde parle de Jurgen Klopp, pourquoi pas? Pas certains non plus. J'ai vu encore fleurir Massimiliano Allegri, toutes les rumeurs possibles sur les coachs, Antonio Conte également, pourquoi pas. On verra ça, mais en tout cas, il faudra sûrement finir avec Arbeloa ou rien d'autre en réalité, Edgar. C'est ça, il n'y a pas de solution là aujourd'hui.
Oui, ou alors tu prends Solari en intérim pour terminer l'année. Si vraiment, parce que en fait, le problème, c'est que si tu prends une humiliation face à Manchester City en Ligue des Champions, on connaît le Real Madrid, on connaît Florentino Pérez, il y aura forcément des décisions qui sont prises derrière. Donc, c'est ça qui peut peut-être amener la chute d'Arbeloa, mais ce sera vraiment pour prendre encore un intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Mais comme tu dis, aujourd'hui, c'est très très compliqué de se dire c'est un tel ou un tel qui va prendre le Real Madrid la saison prochaine.
Il faudra faire attention également à l'avenir de Florentino Pérez, hein, qui n'est plus si jeune, qui va être de plus en plus contesté si la saison tourne très très mal, si il y a une élimination en huitième de finale, si le Barça est à 7 points, 9 points dans 3 semaines. Ça va être très très compliqué, ça va chauffer énormément autour du Real dans la Maison Blanche. Merci Edgar, merci beaucoup Edgar. Rendez-vous la semaine prochaine.
À très vite. Hein.
Merci Rémi Dumont.
Merci Nicolas.
On s'en retrouve très vite.
Avec le plaisir, toujours.
Évidemment, merci à Elina, en régie également. Merci à Flavien Zolkowski, à toute l'équipe d'RMC et de l'After Foot.
Tout à fait.
À la semaine prochaine.
Vive le football.
Bye bye. Oh, c'est quoi? C'est on dirait Stade 2.
RMC After Espagne.